Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci de remplir à nouveau la librairie avec la chaleur qui fait. Pour cette rencontre, qu'on est vraiment très heureuse de pouvoir vous présenter. En compagnie d'Alza Dorlin et de René Saint-Éloi, on va parler du contrat racial de Charles Mills, qui est sorti aux éditions Mémoire d'Encrier. Donc, René s'occupe à créer cette maison il y a quelques années et la dirige, la co-dirige maintenant, je crois, je me souviens plus de son prénom, je l'ai rencontré. Ouais. Donc une belle maison installée à Montréal, au Québec. Et voilà, ce livre important qui est paru il y a quelques mois et que je vous invite à lire, évidemment, mais vraiment particulièrement celui-ci. On va laisser donc Elsa et Rodney discuter. La rencontre est enregistrée, vous pourrez poser des questions. On va être un peu pris par le temps parce qu'ensuite il y a un rendez-vous à la CAF Poésie. Donc il pourra pas trop s'attarder, donc si vous posez des questions plus efficacement possible, et moi je vais me taire tout de suite, voilà. Merci beaucoup, bonne soirée.
Ok, bonsoir, merci beaucoup, moi je suis très heureuse de d'accompagner aussi la sortie du livre ici à Toulouse. Et je vais peut-être prendre en premier la parole, après je laisserai René, puis on va discuter tous les deux, et ensuite on ouvrira évidemment le cercle de discussion entre nous. Pour vous parler, vous présenter en fait Charles Mills, qui est un philosophe qui est né à Londres et qui est jamaïcain, et qui appartient à la grande diaspora jamaïcaine londonienne, et qui a donné des générations aussi d'intellectuels et de militants. Je pense notamment à Stuart Hall, qui est également jamaïcain, qui était également jamaïcain et qui a créé le centre d'études culturelles. Et Charles Mills, lui, est philosophe et il va passer par Toronto et ensuite les États-Unis pour enseigner la philosophie aux États-Unis, notamment à New York, à CUNY. Et il est probablement l'un des plus grands, intellectuels noirs aux États-Unis. Il est décédé en septembre 2021 d'un cancer. Et donc, il laisse une œuvre considérable, mais aussi cet ouvrage, Le contrat racial, qui est devenu évidemment un très grand classique. Il a été publié pour la première fois en 1997 et dans un contexte intellectuel et politique bien particulier, où évidemment il y a toute une grande tradition de la philosophie africaine-américaine ou de la philosophie noire, afro-descendante, diasporique. Mais on peut dire que dans les années 90, le contexte des études africaines-américaines ou des études noires était très porté d'abord par un renouveau de toute l'historiographie de l'esclavage, qui a été vraiment un travail extrêmement important aux États-Unis, avec des contributions majeures. Et puis, il y avait toute une tradition de la pensée noire qui avait été évidemment absolument centrale d'abord dans la pensée féministe et qui a eu une centralité et qui continue de l'avoir. Et puis, évidemment, d'autres champs en tout cas dans le cadre des traditions critiques. D'autres champs aussi ont été très marqués sur la réflexion, sur les questions des systèmes de racialisation et de l'analyse critique en fait du racisme. Et un de ces champs, c'est notamment les études juridiques, avec une contribution d'un certain nombre d'intellectuels héritiers du marxisme noir, et qui, dans les études juridiques en particulier, en 1990, où on est dans une période où se pose la question d'un bilan, en quelque sorte, de toutes les dispositions juridiques de lutte contre les discriminations raciales et de l'ensemble, finalement, des effets, des conséquences, des premiers effets, en tout cas, dispositions de discrimination positive. Et se joue un immense débat aux États-Unis sur, finalement, même si l'ensemble de ces dispositions de discrimination positive qui venaient à réparer une inégalité statutaire historique entre les Blancs et les Noirs ont eu un certain nombre d'effets de rattrapage, un certain nombre d'intellectuels ont élaboré une critique fondamentale du droit, en disant que de toute façon le droit est en quelque sorte dans son formalisme, et malgré tous ces vertus ou ces effets en matière d'égalité théorique et juridique, n'est jamais en mesure de prendre en considération les conditions matérielles et historiques du racisme systémique qui produisent et reproduisent une inégalité raciale. Et dans ce cadre-là, en fait, il y a aussi en philosophie toute une réflexion très importante, mais qui va être complètement centrée autour d'un livre qui continue de faire grand bruit au début des années 90 et dans la décennie 90, c'est la théorie de la justice de John Rawls. Et la théorie de la justice, c'est également une approche, on va dire, en philosophie politique libérale de l'égalité, et avec une question fondamentale qui est quelle est la société la plus juste possible, comment la concevoir, comment l'élaborer et sur quel principe de justice la fonder en quelque sorte. Et Rawls va avoir à la fois une postérité très importante, mais il va aussi avoir un certain nombre de critiques extrêmement frontales. D'abord de la part de la pensée féministe, et notamment avec une autrice avec laquelle Mills dialogue énormément, qui est Carol Pateman, qui a publié Le contrat sexuel en 1988. Et Le contrat sexuel, justement, venait critiquer non seulement cette dimension, on va dire, formelle de l'égalité de droit qui ne vient jamais prendre en considération les mécanismes structurels et les conditions matérielles d'existence qui reproduisent les inégalités et le racisme systémique et le sexisme en l'occurrence. Et Carol Pateman va dire que au-delà du droit et de nos beaux récits sur égalité, liberté, le contrat social que nous aurions évidemment d'un point de vue fictionnel, hein, tous conclus et qui donnerait les valeurs justement de non discriminatoires à nos sociétés modernes. En dessous de ce contrat social, il existe en quelque sorte un pré-contrat sexuel. Et ce pré-contrat sexuel qui est constitutif de la modernité, il a cette forme bien particulière que démontre Carol Pateman. C'est que les femmes ont été, comme groupe social, ont été exclues du contrat social, exclues de la sphère politique. Et en quelque sorte, on leur aurait fait signer un contrat où elles acceptent volontairement de s'exclure de tout contrat politique, de toute participation à la vie politique. Alors, il y a quelque chose de très, très concret, mais par exemple, le contrat de mariage est en quelque sorte un consentement à la soumission, et on peut même dire que jusque dans les années 1990, notamment 1991 pour ce qui concerne la France, qui est la date de reconnaissance du viol conjugal, tout contrat de mariage était en quelque sorte un contrat d'acceptation contrainte à se soumettre. Donc ça, c'est le contexte politique. Et en 97, Charles Mills, justement, il va reprendre cette forme critique qui a été élaborée par Carol Pateman, et il va sortir Le contrat racial. Et de la même façon que Carol Pateman, Charles Mills va considérer que le contrat social tel que nous le conceptualisons, tel aussi ce qui concerne notre attachement à cette fiction régulatrice de nos sociétés modernes. Ce contrat social, en vérité, avant, c'est pas qu'avant il y a quelque chose qu'on aurait oublié ou qui serait recouvert, comme le contrat racial, mais ce contrat social, il est un contrat racial, fondamentalement, et il institue un privilège de la blanchité et structure le racisme systémique depuis l'aube de la modernité et évidemment en lien avec l'émergence du mode de production capitaliste en tant que mode de production colonial, esclavagiste, etc. Donc ça, c'est un tour de force que va faire Charles Mills. Et Charles Mills, lui aussi, en fait, il est héritier non seulement du marxisme noir et des traditions du radicalisme noir, des critical race theory, donc de la critique marxiste noire du droit. Et il va montrer que, en fait, toute la question des droits juridiques, c'est une déclaration formelle, mais qui ne vient jamais corriger en profondeur ce contrat racial qui régule les sociétés transatlantiques. Et la deuxième, le deuxième élément de tradition théorique dans lequel s'inscrit Charles Mills, c'est le tiers-mondisme, et avec toute une réflexion, effectivement, qui n'est pas seulement centrée sur le contrat racial tel qu'il se met en place dans une société discriminatoire et post-ségrégation que sont les États-Unis, mais en fait il va réfléchir à l'échelle globale ce contrat racial pour essayer de penser son objet la suprématie blanche mondiale. Et donc là c'est très important parce que c'est un décentrement aussi par rapport à d'autres intellectuels africains-américains qui vont avoir un focus parfois excluant pour les traditions intellectuelles caribéennes ou afrodescendantes extérieures aux États-Unis, qui vont avoir un focus sur la race aux États-Unis et évidemment l'histoire du suprémacisme blanc. Mais la particularité avec d'autres de Charles Mills est vraiment cette pensée depuis la diaspora caribéenne qui migre aux États-Unis pour des questions aussi pour faire carrière universitaire et avoir une position de production de savoir, et qui va venir penser le suprémacisme blanc comme une organisation propre à nos sociétés contemporaines capitalistes. Donc ça, c'est très, à mon sens, très marquant. Et c'est pour ça que dans le contrat racial de Mills, il n'y a pas seulement, si vous voulez, un focus sur les États-Unis, mais Charles Mills va faire un certain nombre de va tenir ensemble en quelque sorte un certain nombre de généalogies. Donc la première généalogie qui est vraiment un acte pour moi de renversement total de l'histoire de la philosophie blanche, ou plus exactement de l'histoire blanche de la philosophie, c'est qu'il va reprendre effectivement l'histoire de la philosophie, des philosophies du contrat. Donc il va revenir à Hobbes, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, et il va aller penser les racines de ce contrat racial dans les premiers textes modernes du contractualisme. Et un des éléments qui est très important pour Charles Mills, c'est que, alors c'est pas le premier à le faire, mais quand même c'est un des grands à le faire, il propose une histoire précisément de la philosophie par le prisme de la race et de la blanchité de ses récits philosophiques. Et il va prendre notamment John Locke avec une critique, je dirais, classique de John Locke sur l'idée que l'émergence de la subjectivité moderne, elle est définie à travers des droits naturels que sont le droit à l'autoconservation, la liberté, l'égalité, puisque tous et toutes, enfin non, tous, pas toutes, ont des droits naturels, et la question de la propriété. Et chez John Locke, un des fondements de cette subjectivité moderne, c'est que les Européens, les hommes européens, colons, sont propriétaires d'eux-mêmes, et par leur travail, en travaillant en quelque sorte l'espace, tout ce qu'ils travaillent à travers leur corps, par voie de conséquence, ils en sont propriétaires. Et donc dans le second traité du gouvernement civil, John Locke va théoriser en quelque sorte la colonisation, puisqu'il va considérer que les colons dans les espaces des Amériques sont les véritables propriétaires de ces terres, puisque les individus qui y sont et qu'ils ont trouvés en arrivant étaient des individus oisifs qui ne faisaient que jouir en quelque sorte des fruits de la nature sans travailler cette nature, et que par conséquent ils n'en sont pas les propriétaires premiers, mais que c'est bien les colons européens qui sont les propriétaires premiers. Donc c'est un passage de Locke en fait que dans l'ensemble de, on va dire, l'historiographie commune des philosophies du contrat, on passe assez rapidement, c'est une note de bas de page, c'est assez peu commenté. Charles Mills va s'attarder très longuement sur cette question de la propriété de soi comme constitutive, non pas d'un contrat social, mais bien d'un contrat racial qui va venir, en fait, incarner, enfin, que vont incarner la figure du colon. Et de cette question, évidemment, on arrive à une discussion avec Rousseau, le contrat social, la volonté, et l'interrogation fondamentale de, en quelque sorte, qui a été exclu de ce contrat social qui est un contrat racial. Et l'une des thèses de Charles Mills est de dire, finalement, le contrat social, on considère que c'est la transformation d'être naturel en un individu politique, en sujet politique. Ce que dit Charles Mills, c'est que, au fond, cette transformation, elle passe, c'est d'abord un contrat racial qui va venir en quelque sorte transformer des êtres en, selon une distinction fondatrice de la modernité, que sont humains blancs et non humains non blancs, et qui va amalgamer en quelque sorte non seulement l'ensemble des non-blancs, peuples esclavagisés, rasiés, massacrés, déplacés, colonisés, etc., mais également des milieux de vie, des conditions d'existence, des territoires, des espaces, etc. Et donc on va retrouver d'ailleurs dans toute une littérature, y compris au XVIIe, XVIIIe, mais qu'on retrouve au XIXe siècle, cette idée que les terres sauvages, la nature vierge est peuplée de tribus, de justement de peuples, de d'autochtones, d'indigènes, etc., de races. En fait, tout un amalgame, vous voyez, qui va. Ce qui est ça, c'est ça qui est intéressant. C'est pas tellement de dire il va avoir un binarisme entre humain non humain ou blanc non blanc. C'est plutôt que ce binarisme est institué par la blanchité et les blancs, et qu'ils sont en pouvoir de distinguer, d'opérer une distinction entre être et non-être, entre humain et non-humain, sujet et non-sujet, etc. Donc ça, c'est très important, cette perspective d'histoire de la philosophie. Et puis, il y a une deuxième perspective qui est très importante avec d'autres dimensions, bien sûr, c'est la capacité de Charles Mills à proposer une réflexion épistémologique, et ça c'est très fort, c'est vraiment un livre d'épistémologie historique. Et par épistémologie, justement, Charles Mills s'intéresse à la question de l'étude critique des discours produits, enfin des discours de la discursivité moderne, et aussi de la façon dont se construit en quelque sorte d'un point de vue épistémologique, la modernité. Et à partir de cette question-là, donc qui interroge les savoirs, etc., et les, la production de vérité, hein, la production de savoir vrai, dans la modernité, il y a évidemment cette idée de contrat racial qui institue un privilège de blanchité à tout sujet de connaissance. C'est-à-dire, le sujet de connaissance est un sujet blanc qui prend pour objet, en quelque sorte, le monde. Or, ce que dit l'apport très original de Charles Mills, c'est qu'il dit, en quelque sorte, que nous sommes héritiers de ce privilège de la blanchité, puisque à chaque fois que nous produisons un savoir, en quelque sorte, nous resignons en permanence le contrat épistémologique de la blanchité. Et donc, c'est à travers les bibliothèques, les outils, les concepts, les manières de penser, les manières d'interpréter le monde et d'en donner sens. Alors, c'est quoi cette manière qui caractérise la blanchité? Eh bien, c'est là où il y a un concept également très fort, c'est la production d'ignorance. Un premier niveau d'analyse, c'est cette idée d'écrasement, en quelque sorte, hein, et on met dans l'ombre le reste. Le deuxième niveau d'analyse, c'est là où il va plus loin, c'est qu'il dit la production d'ignorance, c'est la spécificité du sujet, du sujet blanc, c'est la spécificité de cette épistémologie de la blanchité, c'est-à-dire que le privilège blanc fonctionne comme étant une production d'ignorance de sa propre position, de sa propre blanchité, mais aussi une production d'ignorance à travers la production d'outils qui mésinterprètent le monde. Alors je m'explique, c'est l'idée que, en quelque sorte, la pensée blanche constitue une position de privilège, parce que vous avez le privilège d'ignorer et vous travaillez avec des outils qui obscurcissent le monde, qui l'interprètent mal, qui le défigurent ou qui le rendent inintelligible. Et donc ça veut dire que les blancs ont des outils d'analyse, en quelque sorte, qui empêchent de comprendre le monde qu'ils ont créé. C'est une citation de Charles Mills. Et ça, c'est quelque chose qui est plus... qu'il faut déplier et essayer, parce que ça donne un protocole très intéressant justement pour les pensées critiques. Donc voilà, c'est ces deux choses, histoire de la philosophie et contractualisme, et aussi nos fictions régulatrices, hein, de nos démocraties modernes et contemporaines, et puis cet apport de l'épistémologie avec ces trois concepts majeurs que sont la production d'ignorance, le contrat épistémologique, et voilà.
Merci. Bon, en fait, Elsa, excusez-moi, je dis bonjour, je lève mon chapeau pour que vous voyez bien. Comme Elsa a pratiquement tout dit, j'ai dit, mais personne ne va lire le livre. En tant qu'éditeur, j'ai dit, c'est sublime, donc, d'éclairer les textes comme ça. Et puis, parce qu'en fait, l'objectif de ce texte-là, c'était d'élargir la discussion. Parce que je pense que, et merci Elsa, merci à un certain nombre d'autres, comme Souleymane Bachir Diagne, qui est un ami, un philosophe, qui connaissait très bien Charles Mills. Et puis, j'ai mangé dans un petit restaurant à Harlem, et puis j'ai été voir Souleymane Bachir Diagne, qui m'a dit, en fait, c'est un restaurant sénégalais qui est à Harlem. Et puis bon, j'étais dans ce restaurant avec Souleymane Bachir Diagne, et puis on s'est assis, et Souleymane Bachir Diagne m'a dit, là où tu t'assois au nez, et Charles Mills était assis justement là. Donc je me prends très au sérieux, parce que et puis Charles Mills lui a dit une chose qui est peut-être importante, c'est que c'est peut-être une vision. Comme je suis haïtien, donc je suis dans le vaudou, et Charles Mills lui a dit, et que ma grande déception, c'est que, et j'aurais aimé voir ces thèses discutées en français. Et comme il sait que Souleymane Bachir Diagne est sénégalais. Et puis il a et puis sous la main de Bachir Diagne, il dit mais c'est normal, ça va se faire. Et puis donc c'est comme si quand je vous vois là, quand je vois Elsa en fait discuter avec vous, c'est comme si ce soir on a accompli en fait le vœu, la vision de Charles Mills, parce que Charles Mills devait venir à Montréal, on devait discuter vraiment ensemble un petit peu partout, il était prêt. Et le livre, le prétexte du livre chez Mémoire d'Encrier, c'était que pour le 20e anniversaire de Mémoire d'Encrier, on allait publier, on allait montrer très fortement les lignes qui, les lignes de fond chez Mémoire d'Encrier, et on a choisi ce livre-là. Et la première question que je me suis posée, c'est pourquoi, et ça a pris 25 ans pour un livre aussi connu dans le monde anglophone, pour un livre qui, en fait, qui a tout, en fait, qui, le livre, on n'a pas besoin d'agence de presse pour que le livre arrive aux éditeurs, comment fait que, c'est comme si, encore le vaudou, c'est comme si le livre m'attendait. Donc, pendant 25 ans, et puis j'ai dit, ah, mais c'est heureux que, parce qu'on devait faire, en fait, aux États-Unis, à Columbia, ils devaient faire une édition, une nouvelle édition du livre, l'édition du 25e anniversaire, et Charles Mills a eu le temps d'écrire la préface pour le 25e anniversaire, mais malheureusement il est mort en fait avant que le livre en français paraisse. Donc ce livre, c'est un livre qui m'a humainement beaucoup bouleversé, et parce que je pense que chacun d'ici, moi-même et Elsa, nous sommes faits des livres qu'on a lus. Nous sommes faits des routes qu'on a foulées, nous sommes faits des horizons que nous-mêmes nous avons bousculés. Et c'est un livre, si je me posais la question, si j'avais lu ce livre comme j'étais exposé à tous les écrivains noirs, tous les penseurs noirs très très tôt. Et je me dis pourquoi ce livre a été invisibilisé pendant très très longtemps. Donc, et on parle de justice raciale, mais il y a aussi une injustice littéraire. C'est-à-dire qu'on se pose souvent la question, pourquoi tel livre n'est pas arrivé à moi? Pourquoi même dans les livres que je lis, on m'a jamais prescrit ce livre-là? C'est-à-dire que je pense que c'est une question à laquelle, en fait, j'étais confronté. Et en éditant ce livre, je me suis dit, on va beaucoup travailler sur la réception, parce que faire un livre, c'est très facile, d'autant plus c'est un livre de philosophie. Si on met la philosophie, il y a beaucoup de gens qui vont regarder, qui vont changer de rayon. Donc, ils vont avoir peur, ils vont dire que c'est un livre fait seulement pour Elsa et les philosophes. Ça va être trop intelligent pour moi, les gens ont peur de tout ce qui pose trop de questions. Aujourd'hui, donc, on a dit comment le faire, parce qu'au départ, c'était de trouver un traducteur. Donc, parce que c'était tous les gens qui seraient compétents sont très très occupés, et puis c'est le moment où ça, il y a une question qui s'est posée: est-ce qu'un traducteur blanc peut traduire un livre comme ça? Donc le traducteur blanc a peur, moi je ne sais pas, parce que au départ j'avais pas posé la question. Et comme je dis souvent, j'ai appris que j'étais noir quand je suis arrivé à Montréal. Oui, parce que le mot nègre, par exemple, en créole, n'est pas racialisé. C'est être humain. Donc, un nègre, c'est un être humain. Donc, et ça pose un problème quand vous êtes arrivé vous changez de lieu, et puis votre corps change. Et avant, je suis toujours dans une fiction, comme ma grand-mère disait, que j'étais le plus beau, en fait. Ma grand-mère croyait vraiment que j'étais un prince, elle m'appelait Petit Prince, Pépi. Et puis moi, quand les gens parlent de nègre, et puis j'ai pensé à ma grand-mère, j'ai dit, est-ce que Tida avait raison? Et bon, je pense que vous serez d'accord avec moi que Tida avait raison. Donc je suis toujours dans cette espèce d'entre-deux, donc dans cette parenthèse-là. Donc, et la question noire, à Mémoire d'Encrier, on travaille beaucoup. En fait, la question antiraciste, que ce soit avec les autochtones. Ce matin, j'ai parlé d'un livre fondamental, comme Je suis une maudite sauvagesse. Parce qu'en fait, ce livre m'a fait rendre compte d'une chose. c'est comment malgré nous-mêmes qui luttons contre l'invisibilisation, comment dans nos angles morts, on arrive à exclure. Quelle est la somme d'exclusion que nous sommes porteurs et porteuses. Donc c'est très important dans ce livre pour voir comment en fait ce que Elsa appelle cet opérateur qui produit de l'ignorance, comment en nous il y a de l'ignorance, qu'est-ce qu'on les livres, les cultures qui nous sont parvenues et quel effort nous-mêmes que nous faisons pour découvrir nous-mêmes, pour prendre le risque de savoir, par exemple, dans le monde, il y a plus de 7000 langues, donc c'est-à-dire que des imaginaires, des cosmovisions, et nous, en tant qu'humains, où nous nous situons? Est-ce que nous nous situons entre une ou deux langues ou trois langues? Comment nous regardons le monde? Avec quels yeux que nous avons regardé le monde? Et ce livre m'a fait faire le constat le plus basique, mais le plus difficile, c'est que je suis un être profondément aliéné, parce que ma première langue, c'est le créole. Quand j'arrive à l'école, on m'a changé de langue, on m'a changé de... C'est-à-dire que ce matin, je disais, la première phrase qu'on m'a dite, c'était « exprime-toi, exprime-toi ». Et je parlais le créole. Ok, t'es content, m'a goumé, m'a parlé, m'a avancé, m'a rêvé en créole. Et puis regardez comme vous m'écoutez là. Et puis c'était comme ça, tout petit. Et puis, mais en fait, cette petite phrase « exprime-toi », »,« exprime-toi » voulait dire « parle en français ». Donc, on m'a cloué le bec. Donc, et puis en plus de clouer le bec, ce qu'on m'a fait, on m'a fait interroger mon imaginaire, c'est-à-dire que ma grand-mère, qui c'était sa langue, si la langue n'existe pas, donc c'est-à-dire ma grand-mère n'existe pas. Donc mon imaginaire, les contes créoles, tout ce que je faisais en créole, parce que tout, je mangeais en créole, je vivais en créole. Donc quand on exclut le créole, c'est pas seulement la langue, c'est-à-dire la question de moi, de mon corps, de toute cette généalogie, de tout ce qui m'a précédé, de mon propre vaudou, de mon propre rapport au monde. Donc tout a été complètement bousculé. Donc, et je suis très conscient quand j'écris en tant qu'écrivain, quand j'édite en tant qu'éditeur, c'est pour moi le même geste, c'est-à-dire peut-être me désaliéner, déconstruire toutes les constructions qui sont faites en moi, malgré moi. Et c'est pourquoi, en fait, quand j'entends des gens comme Elsa parler de l'importance de ce livre, je pense que ce livre est peut-être un tournant dans le sens où et j'ai essayé de voir, de tester la réception en allant voir des militants, en allant voir des réfugiés, en allant voir des écologistes, en allant voir des féministes, pour voir, en fait, pour créer la discussion autour de ce livre. C'était l'étonnement, c'était la singularité. Et c'était aussi cette nécessité, cette urgence, l'urgence de ce livre dans la réception. Et ça crée un enthousiasme fou. Et puis, je ne pense pas si c'est une ruse, l'intelligence ou bien le vaudou. J'ai dit, mais je ne peux pas porter ça sur mes épaules. Ce livre n'appartient pas à Mémoire d'Ancre. J'ai cherché des gens un peu partout pour aider à, en fait... pour aider dans la conversation. C'est comme ça, Souleymane Bachir m'a beaucoup aidé, Elsa m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'il faut en fait une espèce de coopérative pour porter cette parole-là. Il faut qu'on sacre, il faut qu'on frappe vraiment, qu'on batte beaucoup le tambour. Et à Montréal, ça a été fait. En fait, je vous disais, mon dilemme, c'était de trouver un traducteur parce que le débat sur la traduction, en fait, battait son plein, ou bien commençait. Est-ce qu'un blanc peut traduire? Et tous les traducteurs avec qui avant je faisais affaire, c'était naturellement des blancs parce qu'il y a très très peu de traducteurs noirs et les traducteurs noirs et les traductrices noires vont plutôt vers l'interprétariat, vont plutôt vers des traductions très très économiques. Et puis les deux ou trois traducteurs ou traductrices noires que j'ai contactés, et en fait, c'est des traducteurs et traductrices qui sont très, très... qui disent, mais si j'entre dans ce livre-là, ça va être en 2026. Donc, pour moi, c'était déjà trop tard. Donc, et c'est une question, en fait, difficile. Et que, parce qu'à Mémoire d'Ancre, on avait publié un certain nombre de livres qui étaient traduits et qui étaient naturellement traduits par des Blancs. et que ça, c'est des livres profondément noirs, comme et noir sous surveillance. Donc, on a eu une Française de Lyon, Catherine Ego, qui a traduit ce livre de Robin Ménard. Et puis, donc, ce livre-là nous a posé une question fondamentale, comment traduire un livre comme ça. Il y a Webster qui connaissait Charles Mills très bien, et Webster, c'est Alain Diagne, qui est un historien sénégalais et qui est aussi un slammer. Et puis, je me suis posé la question en disant, ce serait intéressant peut-être de piéger les philosophes, ou bien de frapper leur imaginaire en parlant de philosophie en slamant. Je dirais que, vous voyez donc, et de garder cette cadence-là, d'amener une autre cadence, et Webster a fait ce travail formidablement. Bon, elle était accompagnée de deux philosophes qui relisaient chaque phrase, en fait, pour respecter, en fait, toute l'épaisseur analytique, pour vraiment respecter, pour vraiment être dans la philosophie, c'est-à-dire que associer slam et philosophie. Donc, je pense que c'est un livre qui peut, en plus de frapper l'imaginaire, le livre appelle à de nouvelles refondations. Et ce livre dit des vérités qu'on ne dit pas, en fait, qu'on ne dit pas souvent. Et quand j'ai été, parce qu'il y a un peu de difficulté dans l'intelligence souvent proposée, c'est que souvent on nous dit la chose et son contraire. C'est-à-dire que on détruit l'institution à l'intérieur même de l'institution. C'est-à-dire que on est dans des lieux qui peut-être sont des formes d'autocensure. Les lieux même d'où l'on parle peuvent être des lieux d'autocensure. Et puis ce que j'ai trouvé une grande liberté chez Charles Mills pour interroger, par exemple, la suprématie blanche. Et la première phrase du livre, c'est un coup de poing, en disant la suprématie blanche est le système qui, sans jamais être nommé, a fait du monde moderne ce qu'il est. Donc, c'est une page, une très, très grande page, comme une page affiche. Ce matin, j'avais dit avec Elsa et ses universitaires et amis que si vous entrez dans une librairie, vous ne pouvez pas acheter le livre, vous n'avez pas d'argent, soit voler le livre, soit voler la première page. Donc, parce que ça, c'est une arme. C'est une arme massive. Le libraire est là et il sera bien content de voir que qu'il y a une action au moins sur un livre. Donc, parce que pour moi, c'est vraiment, en fait, une nécessité de questionner. Et ce qu'on a essayé de faire aussi dans la réception, il y a eu beaucoup de critiques. Les féministes ont beaucoup critiqué parce que le livre est... En fait, il a beaucoup. Le livre a pris naissance à partir du contrat sexuel et puis les féministes posent un certain nombre de questions, en fait, qui montrent leur distance vis-à-vis de ce livre-là. Les marxistes posent un certain nombre de questions. Les militants pensent que ce livre est important, mais ils sont eux déjà plus loin. Donc, c'est normal. On est militant, donc il faut qu'on croit qu'on est plus loin. Et ce qu'on a trouvé aussi, c'est aussi une déconnexion entre, peut-être générationnelle, en fait, des jeunes qui auraient dû, en fait, et qui auraient dû, qui sont, c'est leur combat, la question de la condition noire, la question antiraciste, et puis des jeunes qui n'ont pas eu, qui veulent réfléchir et qui n'ont pas eu cet outil. Je pense que c'est un outil qui permet de regarder, de relire. Moi, ce matin, je me suis posé la question ici en disant, par exemple, Édouard Glissant, qui met en place toute une poétique de la relation avec toute la complexité de cette politique. Je dirais, j'aurais aimé voir Glissant à Diamant, chez lui, et puis voir toute la théorie de la relation de Glissant et en miroir de Charles Mills. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que ça permet une certaine relecture. Même quand aujourd'hui je lis Achille Mbembe, est-ce que vous voyez toute sa remontée en humanité avec le contrat racial? C'est-à-dire que c'est important de voir que ce qui configure même nos imaginaires, nos actions, c'est la blanchité. C'est-à-dire, et Charles Mill l'a très clairement explicité, c'est-à-dire une humanité qui est blanche et une sous-humanité qui est les racisés. Et dans la blanchité, il ne s'agit même pas de couleur, parce que si vous demandez à un blanc de quelle couleur il est, il ne sait pas. En fait, c'est les autres qui ont une couleur, comme l'accent. Si vous êtes à Paris, dès que vous ouvrez la bouche, on vous dit quoi, ah, vous avez un accent québécois. Mais lui, il n'a pas d'accent, c'est lui qui vous parle. Est-ce que vous voyez, ça aussi fait partie des privilèges. Et je pense que ce que je voudrais dire, c'est que ce livre c'est un livre tellement concret, en tant que, comme manifeste aussi, ce livre, je le lis un peu comme ça, quand on met de côté toute l'analyse, tout le côté analytique, il y a un côté, c'est comme si Charles Mills voulait vraiment prouver, et Charles Mills, en tant que noir, il voulait maîtriser son discours à chaque phrase. Donc, et à chaque phrase, le travail d'édition qu'on a fait dans ce livre, c'est peut-être après 26 ans d'enlever ce côté, et que je pense, mais c'est pas simplement moi, il y a tellement d'italiques, tellement de donc or, tellement de figures de précaution, c'est comme s'il a peur d'être pris, et je ne sais pas, en flagrant délit de quoi, d'ignorance. On sent cette peur-là, donc d'assumer pleinement, en fait, ce discours. Mais pour finir, je dirais simplement que, et pour nous, ce livre a été une révélation, et qu'on peut discuter très librement. Et ce livre a donné naissance à des siècles de paroles où des autochtones, où des femmes racisées, des blancs, des blanches, et que en fait, toute espèce de gens d'origine différente intervenaient. Et on a peut-être dévié un petit peu de la réception proprement intellectuelle, scientifique, philosophique, pour toucher un public et qui considère ce livre vraiment comme un outil décolonial, parce que je pense qu'on en a besoin. Et puis ça nous montre aussi nos propres angles morts. En fait, j'aime beaucoup parler, pas simplement de l'oubli, des stratégies d'ignorance, mais des stratégies de gommage ou d'invisibilité. Mais il y a les oubliés, mais il y a aussi les oubliés des oubliés. Donc, et souvent, je parle comme haïtien, je dis, mais qu'est-ce qu'on m'offre à voir? Comment on offre à un jeune haïtien à voir le monde? Et vous allez voir qu'il y a les oubliés des oubliés. Merci.
Bon, peut-être pour briser la glace, une petite question sur la réception en France après quelques... Alors, j'ai plus en tête depuis au printemps déjà, ouais, ça fait un petit moment. Comment il est reçu par la communauté universitaire, par d'autres communautés avec qui vous auriez été en contact? La question vaut pour Elsa et Rodney.
Mais dans la communauté universitaire, c'est un texte qui a beaucoup été lu en anglais. Donc qui était quand même qui a circulé en tout cas pas mal, et dans les cercles politisés militants qui a été aussi qui a circulé, et surtout il y a une postérité très importante de la production d'ignorance et des épistémologies justement de qui travaillent, parce qu'en fait il se trouve que la production d'ignorance. Charles Mills, donc en 97, théorise dans le contrat racial la production d'ignorance, parce que son point est aussi de dire que, ce que j'ai dit tout à l'heure, si en quelque sorte la blanchité a produit des outils critiques qui sont structurellement des outils qui déforment le monde, qui aveugle, qui le défigure, qui le rend méconnaissable ou incompréhensible, et qui d'ailleurs innocente sa propre position en tant que sujet de savoir. En face, en quelque sorte, ce qui serait des épistémologies noires, c'est de rendre justice au réel. C'est la question du réel et de la réalité crue, voilà, et qui va donner lieu d'ailleurs à tout un certain nombre de débats qui étaient déjà en germe sur aussi le... Enfin, bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a Milsk, et puis il y a tout un courant d'épistémologie historique, oui, d'épistémologie historique, qui est portée, et d'histoire des sciences, qui est portée par Londa Schmidinger, qui est une spécialiste de l'histoire de l'anthropologie philosophique et médicale du XVIIIe siècle sur sexe, race, et aussi un autre universitaire qui s'appelle Robert Proctor, qui ont beaucoup travaillé sur l'histoire de l'anthropologie et de la médecine. Et Schmidinger et Proctor vont sortir un livre qui s'appelle Agnotologie, c'est-à-dire précisément ces épistémologies de l'ignorance. Et vont travailler à partir des savoirs, la constitution des savoirs hégémoniques dans la modernité, donc typiquement la médecine, comment en fait ces savoirs qui acquièrent et qui s'institutionnalisent comme des savoirs de vérité viennent, produisent à proprement parler de l'ignorance. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils, encore une fois, écrasent, c'est qu'ils produisent de l'ignorance. Un exemple pour rendre un peu plus concret ce que je raconte, le clitoris. Et voilà, la disparition dans toute la pensée médicale, même de façon figurée sur les planches d'anatomie du clitoris. Donc c'est ça, l'agnotologie, c'est l'étude en fait de la production d'ignorance dans les sciences. Et ça rejoint ce concept de production d'ignorance chez Mills qui caractérise la blanchité. Et donc, voilà, c'est des choses qu'on travaille. Mais moi, depuis, quand je vous dis ça, des choses qu'on travaille, nous, on est déjà dans une situation quand même qui n'est pas au centre de la philosophie, de la discipline philosophique. Donc, on le travaille dans ce champ des philosophies d'épistémologie historique ou de philosophie critique du genre, de la race, etc. Voilà, et dans les cercles militants, encore une fois, c'est quand même le contrat racial et la question de la blanchité et de la suprématie blanche, qui est un mot, on en parlait cet après-midi. La suprématie blanche, tout de suite, ça vient crisper en disant « mais non, c'est vraiment propre aux États-Unis ». Et c'est vrai, on peut en faire une généalogie historique, le suprémacisme blanc et à proprement parler, l'idéologie... raciste, d'éradication des non-blancs aux États-Unis, portée sur plus d'un siècle et encore active aujourd'hui. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que Mills en fait une structure de la pensée à l'échelle globale.
Et la réception aux États-Unis, par exemple, quand le livre est sorti, est-ce qu'il a eu beaucoup d'impact ou pas ?
Oui, oui, c'est un livre qui a eu beaucoup, beaucoup d'impact. Et Charles Mills était vraiment une figure absolument centrale de la philosophie noire aux États-Unis. Et très, très, très grand enseignant-chercheur, enfin, universitaire contemporain, qui représente aussi... Enfin, je veux dire qu'avec un état en quelque sorte relatif à l'institutionnalisation de ce champ et au niveau de la discipline philosophique, par exemple, de la discipline, de parler de philosophie noire, de philosophie afrodescendante et qui ne consiste pas seulement, on est bien d'accord, à être une philosophie régionaliste, par exemple, comme on aurait tendance trop à le penser, mais qui vient proposer et qui vient cibler l'histoire blanche de la philosophie et son récit. Ça, c'est un tour de force d'un point de vue vraiment disciplinaire et épistémique et même intellectuel, évidemment. C'est vraiment de décentrement radical qui est extrêmement fort. Et Charles Mills, oui, et ça a été aussi un auteur, un philosophe qui s'est beaucoup disputé en quelque sorte, qui est rentré dans des débats d'abord avec John Rawls, mais tout l'ensemble des théories de la justice, parce qu'elles sont aveugles et ignorantes et produisent de l'ignorance sur la race et aveugles à la race. Mais également, qui concerne la philosophie blanche, par exemple, les théories de la reconnaissance de Axel Honneth. Et Charles Mills a beaucoup contribué à interroger cette idée selon laquelle, parce que les théories de la reconnaissance ont été extrêmement, ont beaucoup représenté l'alpha et l'oméga de la philosophie politique contemporaine, avec cette idée qu'il y avait des luttes pour la reconnaissance et qu'au fond, on pouvait apporter une grille d'interprétation de la conflictualité sociale à partir de cette idée de la souffrance sociale ou des blessures sociales, justement de non-reconnaissance des droits, des identités, etc. Et Axel Honneth est porté par Axel Honneth notamment. Et Charles Mills a proposé toute une réflexion à partir du roman de Ralph Ellison, Homme noir pour qui chantes-tu, et qui a travaillé, je ne sais pas si vous connaissez ce grand roman de Ralph Ellison, et Charles Mills a travaillé à partir de la question de la dialectique du visible et de l'invisible, c'est-à-dire à la fois l'extrême visibilité et l'absolue invisibilité, c'est-à-dire qui apparaît en quelque sorte comme sujet digne d'être adressé en quelque sorte. Et en fait, il travaille à partir de Ralph Ellison depuis le point de vue du protagoniste du roman sur ce champ du visible. Et ce champ du visible, la question de la visibilité, de l'apparition sociale et politique, ce champ du visible, il est structuré par la race. Mais on le voit, là encore, je prends un exemple très, très, très concret. Toute la question, par exemple, des images que l'on voit, qu'est-ce qu'on voit en quelque sorte sur les images ou comment se structure la production stéréotypée du barbare, de l'agresseur, de la violence, etc. On voit bien que tout notre champ du visible, c'est notre espace social, il n'est pas seulement traversé par la race, il est structuré par la race. Voilà.
Bonsoir. Je voudrais savoir si le livre aborde le cas, en tout cas, des métisses, du métissage. Parce qu'en tant que métisse, je dirais qu'on produit nous-mêmes de l'ignorance, ou en tout cas qu'on subit pas par notre famille, mais en ayant une famille blanche et en même temps en fonction de l'environnement dans lequel on peut grandir. Dans mon cas, ça a été dans un environnement blanc. Et ben, je me reconnais aussi quand vous abordez, quand vous parlez de production d'ignorance, et j'ai l'impression de la produire moi-même. Est-ce que c'est abordé dans ce bouquin ?
Oui, je vais prendre la deuxième partie. Je vais te laisser avec le métissage, si tu le veux, Elsa. Donc, je laisse. C'est une question, en fait. Oui, mais la question de la production du savoir et comment nous autres, nous participons dans cette production d'ignorance, qu'est-ce qu'on produit, parce qu'en fait, c'est très difficile comme question, parce qu'il y a toute une complexité moi, j'ai grandi en Haïti, donc, et toute la vision qui m'est venue du monde en tant qu'être constitué, c'est en Haïti. Et par exemple, en Haïti, pour saluer, on dit honneur, et l'assistance répond respect. Vous voyez, en fait, c'est nettement supérieur à bonjour, comment vas-tu, personne ne regarde personne, parce qu'on dit honneur, on frappe à la porte et les gens répondent respect. Donc, on est dans une relation qui est capable d'altérité. Est-ce que vous voyez, pour retourner à la poétique de la relation de Glisson, vous voyez dans la langue créole comment, en fait, la relation, elle est produite et elle peut créer de l'humanité, puisque quand on te dit respect, en fait, la porte est ouverte, tu peux entrer, tu n'es plus l'étranger. Dans la culture autochtone, la vision qu'ils ont du monde, c'est le cercle. Quand j'arrive dans une réserve autochtone, donc on change mon nom pour entrer dans la réserve. On m'appelle Outimo Mounish. En fait, ça veut dire le gros chat de la forêt. Donc, Donc l'idée, ils n'ont pas de tigre, donc la forêt, c'est le gros chat. Donc c'est comme ça qu'ils m'appellent. Donc dans une tente à sudation, donc je suis parmi eux. Donc l'exclusion, c'est plus difficile avec le sec, l'exclusion, parce qu'ils te font une place et tu rentres dans le sec. Donc tu deviens inou. Tu participes du même culture et tu produis de la même culture et sur une base d'égalité, tu rencontres des enfants, tu rencontres des jeunes, tu rencontres des vieux. Et tu rentres dans leur code et tu vas voir que l'idée du vieux, ou bien comme en Afrique, on te dit, en fait, un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est-à-dire comment le corps du vieux, le corps, c'est un corps fait de savoir, c'est un corps fait qui génère, qui produit du savoir et qui produit en même temps de la transmission. Puisque la relation intergénérationnelle est très établie. En fait, la question c'est que, et comment on produit de l'ignorance? On produit de l'ignorance tout simplement en rompant le contrat. Le contrat par rapport à nous-mêmes et par rapport à la société. Et j'ai bien aimé un débat que j'ai fait pour peut-être continuer aussi dans la question de la réception, dans un festival à Haïti Monde, avec un philosophe, Yala Koussi Koudi. On parlait de contrat, et puis il avait invité un auteur, Mackenzie Orsel, à qui j'ai donné le livre. Et puis Mackenzie dit, mais nous, on n'a rien signé, nous, en tant qu'Haïtiens. Est-ce que vous voyez? Donc, parce que nous ne sommes pas dans le contrat. Dans le cadre, nous sommes en dehors du contrat. C'est-à-dire que c'est un contrat, le code noir ne reconnaît pas mon corps, le code noir ne reconnaît pas. C'est-à-dire que quand on prend toute la question de l'esclavage, toute la question de la colonisation, c'est-à-dire il y a une délégitimation de l'autre comme être humain. Donc c'est-à-dire que cette division de Charles Mills en tant que la blanchité produit d'un côté en fait une race humaine supérieure qui est ou qui serait les blancs et d'autres races qui seraient des subalternes. Et c'est ça qui se joue. Et qu'est-ce qu'on peut produire? Tout ce qui produit, que ce soit moi qui le produit. Donc je pose la question de la délégitimation de moi-même dans ce que même, dans le regard que, sur le regard que je porte au monde. Et ce qui est important dans un livre qu'on a écrit et que Yara El-Gadban, une écrivaine palestinienne et moi, nous avons écrit, qui s'appelle « Racistes n'ont jamais vu la mer », on raconte souvent la première fois et on a trouvé une fille métissée, Harry Mouski, qui parlait d'elle-même, de père français, elle est élevée avec son père, et de mère, et burkinabé. Et à 7 ans, elle a compris qu'on lui avait appris à détester sa mère. Elle était dans la voiture de son père. À chaque fois que le visage de la mère apparaît, c'est comme elle a vécu ça, comme une agression. Donc elle ne pouvait pas même dire le mot maman. Et c'était en fait sa première fois. Donc, et comment on produit de l'ignorance? C'est comme une jeune fille qui disait que dans les sectes de parole qu'on organise à partir du livre et les racistes n'ont jamais vu la mer, la première fois qu'on fait face et qu'on a conscience de quelque chose qui s'appelle le racisme. Et la fille a dit, bibliothécaire, elle a dit, j'ai pas trop conscience, mais de temps en temps, on était autour de la table et puis j'ai entendu une fois ma grand-mère dire, et ma grand-mère a dit, les Noirs, en fait, je les aime, je les vois, ils sont un petit peu nombreux dans notre rue, mais de temps en temps, je change de trottoir. Est-ce que vous voyez, c'est comme ça qu'elle a compris qu'il y a nous. Au départ, elle était comme simplement une jeune fille, elle voit les Noirs, elle pensait que c'était de grands basketteurs américains qui étaient dans... Elle était contente de voir les Noirs. Donc, c'est à partir de la grand-mère, c'est à partir de ce discours qui va être déposé en elle et qu'elle, donc elle va cheminer avec ce discours-là jusqu'à ce qu'elle-même, elle soit capable, par les livres qu'elle lit, par les gens qu'elle rencontre, par les universités qu'elle fréquente, qu'elle puisse déconstruire. Donc le travail est plus une déconstruction de ces constructions qui nous ont fondés. parce que nous formons, parce que c'est un système et il y a un combat aujourd'hui peut-être très très important. Il y a beaucoup de mots qui sortent comme suprématie blanche. Vous n'entendez jamais un politicien dire le mot, ou bien le mot systémique, le racisme, on va parler de racisme. Mais quand on dit système, quand on dit systémique, eh bien, ils se sentent mouillés. Parce que si c'est systémique, il faut regarder les fondations. Et tout le monde a peur d'aller au fond des pensées qui ont fait de nous ce que nous sommes. Je te laisse avec le métissage.
Alors, il n'y a pas de pensée, enfin, chez Mills, dans le livre, il n'y a pas en particulier sur le métissage. D'autant plus qu'en fait, il s'adresse quand même à un public africain, dans un contexte aussi africain-américain, et un public évidemment plus large que africain-américain. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'histoire états-unienne, la question du métissage est différente de la question, par exemple, du métissage dans les systèmes esclavagistes caribéens. Et aux États-Unis, c'est vraiment l'imposition juridico-politique de la catégorie de noir ou de personne de couleur avec la première goutte de sang qui s'impose. Et on va avoir toute une application de systèmes des systèmes esclavagistes différents, par exemple, si on se situe du côté de la Caraïbe francophone, enfin voilà, où là il y a un colorisme, etc. Enfin bref, donc il y a une spécificité. Et l'autre chose qui peut être hyper intéressante, en tout cas que moi qui m'a beaucoup parlé, c'est que Charles Mills a aussi une approche en philosophie morale. Donc c'est une approche d'analyse. En philosophie morale, justement, du contrat racial. Et ce qu'il dit, c'est que, en quelque sorte, la blanchité ou le contrat racial a pour effet également de naturaliser les valeurs morales. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là? C'est que la naturalisation des valeurs morales, c'est de dire, nous sommes tous nés libres et égaux en droit, d'accord? Et c'est nos valeurs, et nous croyons ça. Et c'était une valeur, donc l'égalité, la liberté, etc. Et par conséquent, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de différence. Par conséquent, non, l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, c'est du passé. Ça, c'est, voilà, c'est un problème, mais c'est du passé. C'était avant. D'ailleurs, il faut parler des abolitions. Il faut arrêter parce que voilà, la mémoire de l'esclavage va trop. Il faut regarder l'avenir. Construisons une société d'égalité. Voilà. Et ben, bon, là, je le fais, c'est caricatural, mais vous voyez, cette idée de naturalisation des valeurs morales, en fait, ça induit, c'est induit par le contrat racial. Et en quelque sorte, lorsque on va dire non mais les origines, tant qu'elles sont folklorisées, tout va bien. Si elles commencent à devenir quelque chose qui reconstitue un autre récit, à la fois subjectif, social, politique, alors là ça devient dangereux. Et dans ce cas-là, on va dire non mais ça va, c'est bon, on commence pas à faire du séparatisme. Donc on voit bien que les valeurs morales naturalisées. Voilà, c'est ça le contrat social, c'est au fondement, etc. C'est, ça fonctionne comme une régulation policière aussi. Enfin, il y a quelque chose qui est répressif et qui a pour conséquence aussi un véritable privilège de la blanchité. Parce que qui est blanc ? La personne qui peut déployer tous les récits idiosyncrasiques, familiaux, je viens de là, nanana, ou qui va dire non mais moi je crois fondamentalement en l'égalité et la fraternité. Mais oui, parce que effectivement, parce que peut-être cette personne fait moins l'expérience de la violence raciale. Donc voilà.
Merci, bonsoir. Donc Mills a fait un constat terrible et lucide. Donc, d'après ce que j'ai compris, son ouvrage est un ouvrage pionnier. Est-ce que dans le monde anglo-saxon, ça a entraîné un développement de réflexion ou de solutions politiques pour sortir de ce carcan historique? Est-ce qu'il y a eu des...
Je vais dire peut-être deux phrases. Bon, on a un thème de... Le livre a connu un retentissement énorme. Et toute la philosophie, la vague africana dont Mills parle beaucoup, parce que Mills interroge aussi le chant, c'est-à-dire que c'était zéro point, parce qu'il a fait pratiquement ce que, en fait, Carol Patman avait fait, c'est voir la représentation, c'est-à-dire que noir en philosophie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire d'abord de l'être noir dans les départements de philosophie. Mais ce qui est peut-être le plus important aux États-Unis, c'est que je ne sais pas dans quelle mesure que le livre a influencé certainement, en fait, la question de Black Lives Matter. Le livre a beaucoup influencé, donc Black, la vie des Noirs compte. C'est très, très important. En fait, les gens ont lu ce livre, donc il y a une espèce de dissémination qui a été faite, parce que dans le monde anglophone, sur les théories raciales, en fait, elles sont beaucoup plus avancées. Et dans le monde francophone, ce que, en fait, j'essaie d'interroger, c'est l'absence. Pourquoi ces livres ont été invisibilisés? Est-ce que, où est Gallimard, où est Grasset, où est Seuil? Parce que, et puis ce qui est difficile aussi dans ce qu'on accepte et assume en termes d'exclusion des imaginaires du monde, quand on a fait lire ça... Il y a une doctorante qui étudie en philosophie à Montréal, brésilienne, et qui a dit, mais et au Brésil, voilà, il y a tel livre en portugais. Ce livre n'a jamais été traduit. Mais je pense que ce livre correspond à notre propre vision. C'est notre propre vision du contrat social. Peut-être que si on va dans toutes les cultures du monde, peut-être que vous pouvez aller en Wolof, vous trouvez... un livre en Wolof qui regarde en fait le monde et qui en fait interroge, qui fait une relecture du contrat social et de l'histoire qui a fait de nous justement ce que nous sommes. Donc il y a une production à laquelle nous, en tant que francophones parlant exclusivement français, nous sommes exclus d'un certain nombre de savoirs pendant qu'on produit de l'ignorance, mais il y a aussi une espèce d'abstinence. C'est-à-dire qu'on est anesthésié par un certain nombre de très, très vieilles pensées. J'aime beaucoup quand Elsa disait qu'effectivement, dans les milieux universitaires, ce livre a circulé en anglais. Naturellement, en tant qu'universitaire, donc on peut entendre parler de Charles Mills, mais Charles Mills, c'était en anglais. Donc c'est ça la question qui est vraiment fondamentale. C'est-à-dire que dans le monde anglophone, ce livre a vraiment circulé. Pourquoi dans le monde francophone, on a eu ce livre 26 ans après et quelque part en sous-main? Parce que c'est un livre qui devait être en fait en poche. Regardez bien ce qui arrive aux théories de justice sociale de John Rawls. Comment c'est partout. Et partout, c'est si vous regardez... Et même, en fait, dans un petit coin, dans vos toilettes, vous allez trouver quelques exemplaires de Charles Mills que vous jetez. Donc, on jette ça. De Rawls, que vous jetez quelque part. Allez dans n'importe quel bouquiniste du coin, vous allez trouver ça. Mais pourquoi ça, le contrat racial n'a pas bénéficié, en fait, d'une diffusion, en fait, comme ça, c'est-à-dire quelque part, il y a eu, nous produisons de la censure ou bien de l'autocensure. Donc c'est ce questionnement-là qui est peut-être important, pas seulement pour Charles Mills, mais il y a un nombre infini, vous ne pouvez pas en fait savoir le nombre d'auteurs, le nombre d'autrices, le nombre de pensées qui sont complètement invisibilisées. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire à Mémoire d'Encrier avec des gens comme Elsa, des gens qui sont conscients qu'il faut faire circuler d'autres cosmovisions du monde. Par exemple, j'ai un texte sur l'Amazonie qui nous donne toute une autre manière d'habiter le monde. Donc, je pense que c'est important.
Bonsoir et merci beaucoup. Je vais essayer de faire vite sur ma question. Moi, j'ai découvert « Je suis une maudite sauvagesse » et « Le contrat racial » à Saint-Malo l'an dernier, où il y avait Mémoire d'encrier. Et quand j'ai fini de le lire, bon, déjà, j'ai pris grosse claque. Et le premier truc que ça m'a fait, c'est de me retrouver avec une immense solitude où j'avais trop envie d'en parler. Avec, bon, déjà, je l'ai conseillé à tous mes potes qui savent lire, mais j'avais trop envie d'en parler avec mon frère, avec ma mère, avec des personnes qui n'ont pas du tout une culture littéraire ou qui ne lisent pas, etc. Et tout à l'heure, par exemple, Rodney, tu parlais de cercle de parole que vous avez fait, etc. Depuis lors, je réfléchis un peu, je me suis dit, dans mon coin, peut-être je vais essayer de faire une fiche de lecture ou un format audio ou trouver d'autres formes pour faire circuler cette pensée, etc. Et bref, et du coup, je me demandais comment, pratiquement, par exemple, dans ces cercles de parole, etc., comment ce livre et cette pensée, elle arrivait à exister hors l'université et les cadres militants, par exemple.
Ce matin, j'ai entendu Elsa parler en fait dans son séminaire de sac de parole. Ça m'a fait plaisir parce que sac de parole nous met dans une véritable relation inclusive. C'est-à-dire le parole n'est pas à moi, donc c'est un privilège que je parle et que vous écoutez. Vous n'êtes même pas d'accord, vous écoutez, donc c'est encore un autre privilège. Donc parce que j'ai le micro, donc, vous voyez, donc et c'est le sac de parole fait circuler la parole et la parole circule à égalité parce que il n'y a pas de jugement sur celui ou celle qui prend la parole. Donc, c'est comme, en fait, le principe, c'est que la parole circule et la parole circule et que tu peux avoir une... Ce qui est intéressant, c'est la diversité ou bien la diversalité de cette parole-là. Puisque les gens parlent de leur lieu, une femme de ménage qui parle ne peut pas parler comme la patronne. Mais il faut écouter, c'est des voix qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. C'est un exercice important parce que c'est un exercice soit de fraternité, de sororité, où on écoute. Où on écoute, et ce qui est le plus difficile, je pense que l'intelligence, et il y a une grande part de silence dans l'intelligence, c'est que souvent les gens n'écoutent pas ou bien s'écoutent. Et c'est important d'écouter. Et dans un sac de parole, vous pouvez être très heurté. Moi, j'écoute des gens qui disent clairement et qu'ils sont pas racistes, mais comprenez-moi, je ne suis pas raciste, comprenez-moi bien. Et j'ai vécu ici, tout Rimouski, dans mon village, était blanc. Et puis j'ai eu 40 ans, j'ai vu un noir. Après, à 42 ans, il y en a 10. Et puis là, maintenant, ils sont presque majoritaires. Donc, et vous comprenez, si moi, je me sens, quand je les vois, et je me dis, moi, qu'est-ce qu'ils vont prendre encore? Qu'est-ce qu'ils vont prendre encore? Il y a l'université, et c'est pas que je les aime pas, je les vois, mais je me sens menacé. Ok? Parce que j'ai été élevé, j'ai jamais vu de noir dans ma vie, et c'est comme ça, c'est en grandissant que je... Et c'est ce genre de paroles que vous pourrez écouter, ou bien les gens parlent sur mon territoire, et puis là, vous allez entendre un autochtone qui dit mon territoire. Je fais partie des Premières Nations. C'est moi qui ai foulé cette terre, c'est moi qui ai construit. C'est moi qui ai défriché cette terre. Il n'y avait pas de colons avant. C'est moi qui ai appris la route aux colons. Après, le colon va écrire son histoire en gommant les Premières Nations. Donc, c'est... Et qui va dire, quand vous parlez de territoire, ces Noirs-là n'habitent pas vos territoires, ou bien ces Noirs, ou bien ces Autochtones qui arrivent en ville, etc. Le même discours. Et la question de l'espace est recentrée à partir de... Et là, et puis les autres écoutent, et puis les autres donnent leur point de vue. Donc c'est important, puisqu'en fait, le sac de parole sur un livre, d'abord dépasse le livre, et les gens arrivent à se raconter. Et là, on trouve vraiment de nouveaux narratifs, parce que c'est un cercle. Et là, il y a une espèce de permissivité qui permet que les gens, et que les gens n'ont pas, les gens ne disent pas qu'est-ce qu'on va réellement penser. Et donc, je pense que c'est une manière de distribution de parole qui est propre aux cultures autochtones. Comme pour eux, la vie est un cercle. Donc, ils reconstruisent la vie autour d'un siècle. Je ne sais pas si...
Mais c'est vrai qu'aussi, tout à l'heure, on discutait de comment René porte aussi le livre dans des espaces des lieux de refuge pour les personnes réfugiées ou qui demandent de l'asile ou des cercles féministes ou des espaces et des terres des peuples autochtones ou premiers. Enfin voilà, il y a tout un quelque chose qui se passe qui était assez impressionnant à écouter. Et je voulais juste dire que moi je suis tellement heureuse aussi que le livre soit traduit, parce que ça veut dire qu'on peut l'enseigner, qu'on peut en parler. Enfin, c'est vraiment un support beaucoup plus facile aussi pour et que ce livre aussi appelle, même à, moi je suis à l'université, mais que en fait je l'enseigne dans tous les cours là cette année quasiment, et qu'on va faire des arpentages. Et je pense qu'il y a aussi matière à l'arpenter. Enfin, c'est vraiment un livre qui s'y prête. Et j'imagine aussi, enfin là, on commence aussi à voir comment on peut faire. Enfin, je serais curieuse de savoir, parce que moi, je serais, en tout cas, s'il y a besoin d'aide pour des textes ou des diffusions ou des enregistrements, voilà. Merci beaucoup.
Merci. Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h. 92.2 sur Canal Sud.